Dans notre analyse du corps physique, nous distinguons un principe dans l'ordre de la forme, la nature forme, et un support matériel, la nature matière. Chez l'être vivant, on retrouve une distinction analogue, l'âme, principe de vie et le corps. Au cours précédent, vous avez parlé de la substance sujet, ce qui reçoit les déterminations qui qualifient ce qui est. S'il n'y a pas de cause matérielle au niveau de l'être, cette fonction du sujet est-elle l'analogue de la nature matière et du corps du vivant? Oui, c'est l'analogue. Il n'y a pas de principe matériel au niveau de l'être. Mais il y a un sujet, un fondement, qui n'est pas un principe. La matière reste, c'est, on dira, la matière première, voyez. On dit la matière première, on ne dit pas le principe. Parce que ce qui dit principe dit premier, et la matière n'est jamais première. Alors, il y a une espèce de contradiction entre matière et principe. Au niveau de l'être, au niveau des déterminations. Donc la matière est un conditionnement. Elle est pour le pos, la manière d'être. Et c'est vrai. Et c'est le conditionnement substantiel, la matière. Un conditionnement substantiel, c'est-à-dire un conditionnement connaturel à toute notre vie. Nous avons toujours eu un corps. Il n'y a que dans les rêves qu'on n'a plus de corps. Autrement, on a toujours un corps. Et nous avons eu, sans doute, le corps avant l'âme. Le corps est plus vieux que l'âme. Et la vieillesse se met dans le corps, comme la jeunesse se met dans le corps. L'âme n'a pas d'âge. L'âme n'a pas d'âge. Elle est éternelle. Elle est immortelle. L'âme. Donc votre âme, elle est dans le temps par votre corps. Elle est dans le temps par le corps, la substance sujet. Mais mon âme n'a pas de corps. Elle n'a pas d'âge. Elle n'a pas de vieillesse, l'âme. Elle ne vieillit pas. Elle est source tout le temps de vie pour mon corps, donc de jeunesse et d'élan. Et l'âme, d'une certaine manière, peut dominer davantage mon corps quand il vieillit. Parce que mon corps, quand il est en pleine jeunesse, de 30 à 40 à 50 ans, il est impératif. Il regimbe contre l'âme. Quand on essaie d'acquérir des vertus, le corps n'est pas très content. Et quand votre corps a faim, quand votre corps a désir de prendre des choses bonnes, et votre corps dit, et votre âme dit, assez, 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 bâton. Alors, quand on vieillit, le corps prend moins d'importance au point de vue de la détermination. Et l'âme est plus libre. Et à un moment, elle est tellement libre qu'elle laisse le corps de côté. Fiche le camp. et l'âme s'envole. C'est très curieux, n'est-ce pas, cette espèce de mainprise de l'âme sur le corps. On dit union substantielle. Et union substantielle. C'est une union terriblement forte, l'union substantielle. Et je crois, selon les visions d'Aristote, et je crois qu'elle reste vraie, c'est que l'âme n'a pas été créée tout de suite. Vous voyez. Alors, je sais bien qu'on pourrait dire que l'âme est créée tout de suite, mais on ne le sait pas. On ne sait pas quand l'âme a été créée. Donc les gens qui vous certifient qu'elle est créée dès le point de départ, non, ils ne le savent pas. Et le Saint-Père lui-même, dans l'encyclique sur la vie, il montre que c'est un secret. Nous portons en nous un secret. La création de notre âme. Et quand l'âme a été créée en nous, nous ne savons pas. Et c'est très curieux, ça, du reste. Ça fait partie du gouvernement divin. Et on devrait y réfléchir beaucoup, parce que c'est quand même quelque chose de très important, ça. Dieu a voulu que nous ne sachions pas quand l'âme était créée. Et il n'y a aucune décision de l'Église. Et humainement, on ne peut pas le savoir. Il faut simplement dire qu'à un certain moment, sûrement l'âme est là. Vous voyez ? Moi, une année, on avait cherché ça parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient fait des études assez poussées sur le point de vue d'un point de vue médical et au point de vue scientifique, sur le point de vue de la gestation. Je crois personnellement que c'est le moment où l'embryon a un cycle de vie indépendant de sa mère. Alors que le départ, au bout des bras, c'est sûr que l'embryon, le fœtus, a le même cycle de vie. Vous voyez, c'est lié au sang. Ce qui est très curieux, parce que dans l'Écriture, l'âme et le sang sont toujours liés. Et le cycle de vie sanguin, c'est ça qui anime le corps. Alors, au point de départ, il est dépendant de la mère, c'est sûr, entièrement. Si l'âme est créée, c'est l'âme qui dit à la mère, maintenant, c'est moi. Je prends mon indépendance. C'est sûrement le point de l'âme, c'est le point de départ de l'autonomie. De l'autonomie vitale. On dépend encore très profondément de sa mère et on ne pourrait pas vivre sans elle. Mais il y a quand même un cycle de vie qui est propre. Je crois que c'est le signe le plus net de l'âme. Et comme signe de la réalité de l'âme. Alors, on a substance matière, comme vous avez nature matière, vous avez substance matière. La substance matière, c'est le sujet. Et très vite, ça vient génétiquement, ça arrive au moment où le cycle de vie est individuel. Et alors, à ce moment-là, on peut dire que vous êtes en présence de la substance sujet, sujet des accidents. Et en même temps, elle est sujet des accidents, il y a les sources des accidents. Il y a les deux aspects. Mais elle est source par l'âme à travers le corps, par l'âme qui informe le corps. Et en informant le corps, l'âme devient source. Et le corps devient source de vie. C'est évident que dans ma vie sensible, tous mes sens sensibles, les cinq sens sensibles, ont une certaine autonomie. L'âme n'est pas simple, le corps n'est pas simplement sujet, mais il devient en même temps principe. Par l'âme, mais l'âme est principe par le corps, avec le corps. Donc le corps est co-principe pour tous les sens, pour la vision par exemple, parce que c'est l'œil qui est le plus intéressant. Et c'est un des organes les plus intéressants, l'œil. Vous voyez le mieux la coopération de l'âme et du corps. Parce qu'il y a une coopération des deux. Et le corps, il est fait pour la lumière. La vue est faite pour la lumière. Et c'est surtout c'est le sens premier, c'est sûr, c'est le toucher. C'est le sens le plus fondamental, ça. C'est là où la coopération du corps et de l'âme est la plus forte. Mon âme est au bout de mon doigt. Quand je touche quelque chose, mon âme est au bout de mon doigt, c'est sûr. La preuve, c'est quand on me pique, tiens, sensible. Mon âme est dans mon œil. Mon âme est dans tous les sens. Les cinq, c'est le toucher et la vue. Et l'oreille, c'est la communication. Chacun des vous voyez, alors, et on peut faire ce regard, ce serait très intéressant, ce regard du sujet, mon corps est sujet. Et c'est le sujet le plus parfait, le corps humain. C'est là où la substance matérielle est la plus parfaite. Le corps humain, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre que Dieu a fait. Dieu l'a pensé, le corps humain. Et il a voulu que l'âme anime ce corps. Dieu ne l'anime pas directement. Et la grâce est reçue dans l'âme. Elle est reçue dans le corps. Le corps, lui, il communique le péché. Et la communication du péché se fait par le corps, se fait par le sujet matériel. Et dès que l'âme est créée dans ce corps, qui est porteur de péché, il y a le péché originel, péché de nature, et un péché substantiel, quasi substantiel, quasi, il n'est pas substantiel, parce que le péché ne peut pas être substantiel, mais il est substantiel par le corps, il est radical. Et c'est pour ça que les conséquences du péché originel, vous les avez tout le temps. Elles disparaîtront avec votre corps. Et jusqu'à la fin de votre vie, vous aurez les conséquences du péché originel que vous porterez en vous. Vous serez gourmand. Mais vous avez un appétit de violence, de domination. Toutes les passions sont dans le sujet. Vous voyez, toutes les passions sont dans le sujet. Donc, c'est très riche le sujet. La substance sujet, c'est très riche. Mais vous voyez, aujourd'hui, alors c'est là, je me souviens de la réaction d'un étudiant de Genève qui était venu me voir, qui était un parent de Saint-Dominique. C'était un groupe. Il vivait dans le même endroit, le même château que Saint-Dominique. Et il était étudiant à Genève, espagnol, étudiant à Genève. Et il faisait des études du corps humain au point de vue médical. Alors, quand je lui expliquais, en fait, c'était un séminaire avec Aristote, et Aristote le dit avec beaucoup de force, que l'âme est forme du corps. Et donc, si on n'étudie pas l'âme, on étudie tout matériellement. Et on n'a donc pas une vraie connaissance du corps humain. Parce que âme, matière et forme, tant qu'on n'a pas la forme, on étudie matériellement. Alors, il était sorti de là, je me souviens, on se posait une question. Alors, il dit, alors, toutes nos études que nous faisons, au point de vue scientifique, ne sont pas scientifiques sur le corps humain. Parce que ce qui serait scientifique, c'est par l'âme. Puisque c'est l'âme qui est cause de tous les mouvements. C'est l'âme qui est cause de tous mes organes et les formes. Elle me donne l'intelligibilité de l'œil. Elle me donne l'intelligibilité du toucher. Alors que si je n'étudie que le point de vue matériel, je n'étudie que la cause matérielle. Et je n'ai pas une possibilité d'une connaissance scientifique par la cause matérielle. Alors, il était sorti de là en disant, mais c'est affolant alors. On étudie le corps humain scientifiquement, on dit que c'est scientifique, et ce n'est pas scientifique. C'est matériel. Et on ne saisit jamais le principe. Il échappe, parce qu'on ne voit pas l'âme. Et c'est vrai, ça. Il est entré chez les bénédictins, du reste. La communauté Saint-Jean n'existait pas encore. Voilà. C'est très vrai, l'aspect scientifique, ne voyant que le corps, et ne voulant parler que du corps, n'étudie que la matière, le sujet. Et il ne peut pas y avoir une connaissance scientifique. Il ne peut y avoir qu'un aspect descriptif. Le corps réagit, la mémoire du corps. Le corps est déterminé, mais on ne voit pas la cause de la détermination. C'est l'âme. Oui. Alors, ce serait très intéressant de voir comment l'âme, comment le sujet, la substance, la substance sujet, reçoit toutes les déterminations du corps. Toutes les déterminations du corps sont reçues et proviennent d'un principe actif. Et ce principe actif, c'est l'âme. C'est la substance âme. Donc il y a la substance corps, sujet, et la substance âme. Ça, c'est tout simplement l'application de la découverte de la substance au point de vue métaphysique par rapport au corps le plus parfait. La substance matérielle, sujet la plus parfaite, c'est le corps humain. Et je porte en moi cette substance matérielle, mon corps. Je le porte. C'est pas mon âme qui porte mon corps. C'est pas le corps qui porte mon âme. C'est mon âme qui porte mon corps. C'est sûr. Et les bons médecins savent très bien. C'est pour ça qu'ils parlent du moral du malade. Alors ce malade, il a encore bon moral. Donc, il continue de vivre. Tandis que dès qu'il n'a plus le moral, il s'abandonne à la mort. Alors, il appelle ça le moral. Et ce moral, quelle en est la cause ? Et il faut que nous ayons vis-à-vis de la distinction corps et âme, il faut que nous ayons une vue très claire, parce que la grande lutte de demain, ce sera ça. Déjà, je me souviens, sitôt la guerre, on avait été à Athènes et j'avais été avec un groupe de Genève. On était invité à l'université d'Athènes. Et tout de suite, les professeurs de philosophie m'ont posé la question. Est-ce que la distinction du corps et de l'âme et du corps est philosophique ou est-ce qu'elle est purement chrétienne ? C'est évident, en tant que chrétien, je distingue l'âme et du corps. Et je dis que la grâce est reçue dans l'âme. Mais est-ce que cette distinction de l'âme et du corps est philosophique ? C'était des professeurs de philosophie. Alors je dis, vous qui êtes à Athènes, successeur de Platon et d'Aristote, posez cette question. Alors que toute la philosophie de Platon, c'est la distinction de l'âme et du corps. Toute la philosophie d'Aristote, c'est la distinction de l'âme et du corps. C'est évident que c'est la grande question philosophique. Découvrir le primat de l'âme sur le corps, le primat de la substance formelle sur la substance matérielle. Vous voyez ? Alors on touche là quelque chose de fondamental. Et ce sera sûrement le grand débat philosophique déjà actuel, mais ce sera demain aussi. Parce que si vous supprimez la distinction de l'âme et du corps, si vous ne voyez que le corps, vous avez une vue positiviste de l'homme et il n'y a plus possibilité de voir sa finalité. Et donc, au point de vue chrétien, vous croyez à l'âme, mais vous n'arrivez pas à préciser que l'âme, c'est la grande vision sur l'homme au point de vue philosophique. Ceci me permet, vous voyez, de voir que la substance sujet, qui pour moi est mon corps, donc là, vous saisissez substance sujet, vous voyez jusqu'au bout, c'est votre corps. Vous la touchez, la substance sujet. Et toute la connaissance que vous avez de votre corps vous permet de comprendre la substance sujet. Cette substance sujet, elle est partielle. Ma vie n'est pas entièrement enfouie dans mon corps. Ma vie a commencé par le corps. J'ai eu une vie souterraine. Et ça, c'est très important. Et on remet ça très en lumière aujourd'hui. J'ai eu une vie souterraine. Cette vie dans le sein de ma mère. Je ne m'en souviens pas. Quand on vous fait ressouvenir de ce qui s'est passé quand vous étiez dans le sein maternel, je me pose une grosse question, point d'interrogation. Est-ce que c'est pas inventé? Est-ce que ma vie étant souterraine au point de départ, est-ce qu'elle n'a pas été entièrement cachée? Ma mère peut savoir que durant le temps qu'elle, de la gestation qu'elle me portait, il y a eu tel événement extérieur très violent pour elle, qui ont eu sans doute des répercussions. Mais elle peut se souvenir de ça. Elle peut se souvenir des circonstances particulières. Hein? Mais le petit, quelle expérience a-t-il? On cite comme un miracle Jean-Baptiste, quand il a ressenti la présence de Jésus en Marie et par Marie, la visitation. C'est un texte très intéressant, puisqu'on voit que là, l'enfant a tressailli dans le sein de sa mère. Si cela nous est donné, c'est pour que nous comprenions que l'enfant peut tressaillir dans le sein de sa mère et être dans la joie, et connaître une joie souterraine. Vous voyez, la joie est d'autant plus grande quand l'éveil de l'intelligence n'est pas fait. Et c'est le cas, vraiment, où il y a eu un éveil affectif de présence. La présence est toujours beaucoup plus affective. Et cette présence affective, l'enfant l'a ressentie. Alors évidemment, c'est un miracle. Donc, c'est pas vrai pour tous les enfants. Vous n'avez pas eu nécessairement, comme Jean-Baptiste, quand vous étiez dans le sein maternel, la visite du Christ. Mais vous avez pu la voir. C'est quelque chose de très particulier pour Jean-Baptiste, mais pas uniquement réservé à Jean-Baptiste. On dit que la mère de Saint-Dominique avait eu un songe qu'elle portait en elle un chien avec une torche allumée. Saint-Dominique. Mais Saint-Dominique n'a jamais fait réflexion sur ce qu'il a pu vivre dans le sein maternel. Mais aujourd'hui, où on est très curieux, une curiosité va très loin, et puis qu'on a un souci très très grand de voir l'origine, parce qu'on oublie la finalité. Alors, oubliant la finalité, on se rabat sur le fondement et sur le point de départ. Et on essaie à tout prix de comprendre ce point de départ, qui est le point de départ de l'homme. Mais ça ne nous avance pas beaucoup. On sait que ce point de départ, il est secret. Il est enfoui. Dieu a voulu que le point de départ de l'homme soit comme ça. Il y a une raison, hein. Est-ce que Dieu n'a pas fait ça pour que nous comprenions ce qu'est la foi? Vous voyez, analogiquement, notre vie humaine qui a été dans le sein maternel pendant 9 mois, avant d'être éveillée quand le petit est né, est-ce que ce n'est pas analogue à la vie que nous vivons dans la foi par rapport au ciel? Et le sein maternel, c'est le sein de l'Église. Alors on est porté dans la foi, et on vit dans la foi d'une façon ténébreuse. Dans le sein maternel, la seule connaissance possible, c'était le toucher, et non pas la vue. C'était le toucher. Et dans le sein de l'Église, la seule connaissance, c'est le point de vue de la foi. Et le point de vue de la foi, il faut toujours regarder le toucher. C'est par le toucher qu'on peut développer le mieux ce que c'est que la foi. Non pas la vue, puisqu'on ne voit rien. Tandis que le toucher, oui, le toucher est toujours dans l'affectif. On a eu pendant 9 mois un toucher qui était très faible évidemment, mais qui a pu se développer, et pas la vue du tout. Donc le point de départ de la connaissance a été le toucher, et pendant un certain temps. Ceci, je crois, pour nous permettre d'avoir un analogué sensible, humain, de le mystère de la foi. On est dans le sein d'Église, on est porté par l'Église, et la vraie naissance à la vie divine, à notre vie d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, ce sera la vision béatifique. Alors, on peut faire toutes les analogies. Et cette recherche actuelle de la vie utérine devrait nous aider beaucoup au point de vue de la vie de la foi. Je connais un médecin qui est vraiment, à sa manière, un saint. Je connais un médecin qui est au bloc du reste des sœurs. Des sœurs qui fait des opérations pour essayer de corriger certaines malformations du fœtus, de l'enfant qui est dans le sein maternel. Pour corriger certaines choses. Alors, il me disait, parce que c'est un ami, il me disait combien c'était difficile, parce que justement les organes ne sont pas encore tellement séparés et divisés qu'on risque toujours de toucher quelque chose qu'on ne voudrait pas toucher. Et c'est vrai que dans la foi, tout est un peu global. On distingue les articles de foi, mais tous les articles de foi se tiennent. Quand vous refusez un article de foi, vous êtes en dehors de l'Église. Vous voyez, tout se touche, tout se tient. Parce que le primat de l'amour est beaucoup plus fort. Il n'y a pas de connaissance. Il y a une connaissance obscure. Une connaissance analogue au toucher. Là, il y a beaucoup de similitudes qui peuvent nous aider beaucoup à comprendre ce que c'est que la foi. Bon. Ça, c'est tout ça, c'est la substance sujet. On pourrait s'attarder beaucoup, hein, parce que ce serait très intéressant. Là. Et toutes les études biologiques actuelles qui nous donnent des connaissances beaucoup plus précises qu'avant, que du temps d'Aristote, c'est évident. On connaît le développement du fœtus presque complètement, mais on le connaît d'une façon discontinue. On ne le connaît pas d'une façon continue. On refait le continu. On le connaît moment par moment. Pour comprendre tout le développement organique qui se fait. Et ce développement organique est commandé par l'âme. Et pour Aristote et pour saint Thomas, avant que l'âme soit créé, il y avait justement cette virtus generativa qui est donnée par le père et la mère et qui permet la première organisation du fœtus parce qu'il s'organise d'une façon extraordinaire. Comment le fœtus se développe, comment le corps organique, le sujet matériel s'organise, la disposition, dispositivée. Et ça, c'est la virtus generativa qu'on reçoit de son père et de sa mère, qui fait que tout de suite, ce petit vivant a déjà en lui son chiffre spécial, son développement particulier. Vous voyez, regardez l'aspect substance matérielle dans le fœtus, dans l'œuf fécondé. Il y a déjà tout un plan de vie qui est déterminé dans l'intérieur et qui se développe. C'est le propre du vivant. Vous voyez ? Et cela, si on y pense, il faut bien que ça provienne d'une première intelligence, d'un regard de sagesse, qui fait que, dès le point de départ, le tout petit embryon, l'œuf est déterminé. C'est vrai pour l'homme et c'est vrai pour tous les animaux. Tout est déterminé dans le point de départ, dans l'œuf. Et ça fait comprendre du reste cette espèce de retour à l'œuf. Pour les méditations particulières qui sont justement de reprendre tout à la source. Une méditation très spéciale. Alors, il y a à l'intérieur de la substance sujet un élément actif qui organise d'une façon intime, intérieure, tout le progrès du vivant, le corps du vivant. Et ce point de départ se fait. Les anciens disaient la virtus, saint Thomas dit ça, la virtus generativa, la vertu générative, qui faisait ça. C'est la détermination de la substance qui n'est pas peut-être encore là si l'âme a été créée après. et qui vient de la disposition. La disposition conduit à la forme. Elle n'est pas la forme substantielle. Et la forme substantielle arrive dans une matière déjà très évoluée, ayant déjà certaines déterminations bien précises pour reprendre et redonner un nouvel élan. Autrement dit, il y a des étapes successives dans le point de vue de la substance sujet. Et ces étapes successives, on peut les dire, elles sont téléguidées, elles sont organiques, elles sont déterminées en vue de la fin, c'est-à-dire en vue de la naissance, et à la naissance en vue de la croissance. Et jusqu'à un certain âge, notre corps grandit. Puis, il y a un haut plateau, il ne grandit plus, mais il continue de vivre avec une intensité plus ou moins grande. Et puis après, il y a un déclin. C'est très curieux, la substance sujet. Et la substance sujet, c'est notre corps, hein. Alors, nous pouvons, par rapport à notre corps, comprendre qu'il y a une montée et puis un arrêt à la montée, un haut plateau. Et puis ce haut plateau commence à descendre. Et la descente est plus ou moins rapide. Il y a des coups de frein. Mais il y a une descente. Et la descente est du côté de la substance sujet. La substance sujet, elle est gardienne du mouvement. Du mouvement vital, génétique, qui est en nous. Alors certains s'arrêtent dans la montée. La mort peut arriver dans la montée, elle peut arriver dans le haut plateau, elle peut arriver dans la descente. Et c'est pour ça, du reste, que les morts des vieillards sont souvent longues, et beaucoup plus longues que la mort des jeunes. Parce que la substance sujet est beaucoup plus développé. Toutes les possibilités cachées dans la matière, puisque la matière est source de potentialité, ont été plus ou moins développées. Toutes les possibilités. Et au fond, aujourd'hui, avec les médicaments, avec l'art médical, on essaie de faire que le corps puisse, en quelque sorte, épanouir toutes ses possibilités. C'est très étonnant, au point de vue médical, de voir ça. Toutes les possibilités, les potentialités que possède notre corps, elles se développent successivement. Et en vieillissant, il y a des possibilités qui se développent et qui n'auraient jamais été développées dans la montée et qui se développent dans la descente. Autrement dit, il y a dans le point de vue substance-sujet des virtualités qu'on ne connaît pas toutes et qui sont presque inépuisable, ces virtualités, et qu'on peut développer et qu'on développe en connaissant mieux ce que représente le corps humain et toutes les possibilités qu'il y a dans le corps humain au point de vue vie végétative, vie sensible. voyez, dans la vie sensible, le fait de porter des lunettes, qu'est-ce que c'est exactement au point de vue de la vie? C'est que toutes les possibilités virtuelles de l'œil qui se fatiguent en raison de myopie, en raison de maladie, peuvent continuer de se développer et qui ne se développeraient pas autrement. Et on fait ça pour tous les sens, sauf pour le toucher. On n'a pas des gants qui vous permettent de mieux toucher. Vous pourriez avoir des lunettes gants. Ce serait très, très curieux. Vous auriez un toucher qui serait développé. Parce qu'il suffit de toucher. Mais c'est ce qui suffit le moins. Quand il n'y a plus de toucher à l'égard du chaud et du froid, on se dit, tiens, vos extrémités du corps commencent à mourir. Vous voyez ? Vous êtes moins vivant. Et c'est sûr. Ça, c'est la mort se souligne en dernier lieu dans le toucher. Dans le point de vue de l'œil, bien plus vite, mais dans le toucher. L'âme quitte le corps en dernier lieu par le toucher. Et quand vous avez un cadavre, il n'y a plus de toucher. La substance sujet, c'est un monde de virtualité, d'éclosion constante. Mais c'est substance sujet, c'est-à-dire elle est toute relative à la substance quiddité. Et elle porte un développement temporel, temporaire, qui est plus ou moins grand, plus ou moins développé. La substance quiddité, l'intelligibilité. Chaque être vivant est l'homme, c'est l'homme que nous regardons, il y a son intelligibilité qui se développe. Et qui permet au sens de se développer, qui permet à l'imagination de se développer, qui permet à son intelligence de se développer progressivement. Et nous passons du sensible à l'imagination. Et nous avons une imagination diverse, suivant chacun des sens, une imagination du toucher, une imagination de la vue. L'imagination se développe surtout par la vue, mais elle se développe par tous les sens. C'est en ce sens-là que quand un aveugle de naissance donc ne peut pas développer le point de vue. L'imagination se développera plus du côté du toucher et il y aura comme des suppléances. Le toucher d'un aveugle a un développement extraordinaire qui remplace la vision. Et il y a toujours des suppléances. Nos cinq sens. Et c'est l'âme qui fait ça. Notre âme, elle informe notre corps. Alors, elle est pour le corps ce qui lui permet de vivre. Donc l'information, le développement. Et puis, il y a l'âme supérieure qui n'a plus de corps. Pour chacun d'entre nous, c'est plus ou moins développé. Nous avons notre âme immatérielle, nous avons notre âme spirituelle, nous avons un développement intellectuel qui se fait au-delà du corps. c'est l'imagination qui est ce métaxu, ce passage du sensible à ce qui est au-delà du sensible, à l'intelligible. Toujours, ça passe par la médiation de l'image. L'image est à la fois sensible et spirituelle. C'est très curieux, ce domaine particulier de l'imagination. Mais notre imagination a encore un organe sensible, mais notre imagination est un appel à quelque chose de purement spirituel. On peut avoir des images qui nous font pencher vers le point de vue sensible, vers le point de vue végétatif. L'imagination d'un gourmet se développe surtout du côté de la nourriture. L'imagination d'un être sexuel se développe du côté de la sexualité. L'imagination, elle se développe toujours en fonction des sens. Et il y a l'imagination, alors, beaucoup plus spirituelle, qui permet à l'âme, à la substance quiditative, de se développer dans l'intelligence. Et le développement de l'intelligence a toujours un point de départ sensible, imaginatif et spirituel. Vous avez toujours les trois degrés. Le point de vue sensible, tout ce que nous connaissons passe par nos sens. Tout ce que nous connaissons passe par l'image, l'imagination. Et tout ce que nous connaissons, nous pouvons dépasser ce point de vue de l'image et arriver à une connaissance universelle. Et dans la connaissance universelle, il y aura le développement de la connaissance universelle dans les sciences, et un développement de l'intelligence à l'état pur dans une philosophie et une métaphysique. C'est important de comprendre que le corps, substance matérielle, est entièrement ordonné pour le développement spirituel de notre âme. Nous sommes faits pour contempler. Et la contemplation a son régime spécial qui n'est pas scientifique et qui est l'intelligence qui cherche son origine, l'origine de l'âme. Au fond, nous sommes toujours en quête de notre origine. Nous cherchons d'où nous venons et nous trouvons d'où venons par le point de vue de la finalité. C'est la finalité qui nous permet de découvrir notre origine, l'origine de notre âme. L'origine de notre âme est spirituelle. Nous sommes dépendants, quant à notre corps, de nos parents. Et par nos parents, tout l'atavisme humain. Mais il y a en nous une autre dépendance qui est spirituelle. Et on ajoute à cette dépendance spirituelle une dépendance surnaturelle. Alors là, ça dépasse le point de vue philosophique. Et ce développement de l'intelligence, ce développement de notre âme spirituelle, de notre âme qui informe le corps et qui arrive à se développer pour elle-même, c'est la substance spirituelle.